Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Antoine Robitaille suit la course au pouvoir, tout en respectant les limites de vitesse, là où sur l'autobus. Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Mais bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Mon calme général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et justement, on parle du Parti libéral du Québec aujourd'hui. Sa campagne est vraiment ardue actuellement. Il y a des problèmes de recrutement de candidats, des erreurs dans le cadre financier, dans son projet phare éco. Dominique Anglade, même ce matin, a commencé à faire ce que tous les politiciens désespérés font, c'est-à-dire des appels au vote stratégique. Donc, si la tendance observée par les sondages se maintient, est-ce que le Parti libéral pourrait subir la pire défaite électorale de sa très longue histoire? Dave, c'est ma question.
Il y a deux façons de calculer ça. D'abord, en pourcentage de vote. Le dernier léger indiquait que les libéraux auraient 16 % des votes, donc ce qui ferait en sorte que ce serait effectivement la pire performance du Parti libéral du Québec, parce que le record en ce moment est détenu par les élections de 1867, au cours de laquelle les libéraux ont récolté 18,5 % des votes. Donc, avec 16 % on dépasse le pire score électoral de l'histoire du Parti libéral.
On tombe dans le plancher est encore abaissé de 2 % là, c'est ça?
Oui. Puis en 1867, il faut se rappeler que la Confédération avait recréé le Québec et que c'était un projet conservateur. Donc, les libéraux étaient un peu, largués par tout ce qui se passait. Même, il n'y avait pas vraiment de chef d'opposition quand le Parlement siège pour la première fois à Québec en 1867. Donc, on est vraiment au plus bas. Et pour voir une performance encore en troisième rang, on aurait 1871 avec 29 % des voix. Donc, c'est vraiment, avec 16, on est vraiment dans le record assuré. Et ça semble pas parti pour remonter. Donc, mais pour ce qui est de la proportion d'élus, au Salon Bleu, c'est quand même important d'avoir un nombre conséquent d'élus.
Ben oui, parce que le nombre de sièges total a varié avec le temps. On est rendu à 125, mais il n'y en a déjà eu que 100. Donc, il faut faire une proportion, là.
Même plus bas que ça, au départ, on a seulement 65 sièges en 1867.
Oui.
Si on prend les chiffres de Québec 125, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent les sondages et les calculs, le nombre de sièges probables. Eux, ils arrivent entre 11 et 24 sièges pour le Parti libéral, si on tient compte des sondages actuels, avec une moyenne de 17 sièges. Ah. Donc, 17 sièges sur 125 élus, ça représente 13 % des élus.
Ouais.
Et là, on battrait pas le record libéral de 1948, où on a eu seulement 8,7 % d'élus.
Ah oui,
au terme des élections de 48.
C'était
donc, ça ne serait pas encore le record.
C'est ça, c'était 8 sièges à ce moment-là.
Non, c'est ça, c'est 8%. Ben, en fait, oui, c'était 8 élus, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les Québec 125, qui fait une estimation pour 2022, parmi les 17 sièges possibles, il y en a seulement 10 qui sont solides. Et dans ces 10-là, ça recoupe la plupart des comtés qui avaient voté libéral en 1948. Donc, on est vraiment dans le...
Ah oui?
Sur la roche, on peut dire, sur le roc. Donc, on revient dans le West Island avec l'ancienne circonscription. Ben, en fait, déjà Cartier qui a été subdivisé depuis, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, ce qu'on appelait Westmount-Saint-Georges à l'époque en 1948. Donc, 48, pour faire un petit retour très bref.
Pourquoi le Parti libéral avait contre-performé comme ça en 48?
Ben, en 48, on avait eu seulement, comme je disais tantôt, 8 rescapés. Dans ces 8-là, il y en a 5 qui avaient été élus dans le West Island, mais 2 qui avaient été élus quand même dans le Québec francophone. On parle de Gaspé-Nord et Verchères, ce qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on voit en ce moment, où on a pratiquement seulement des élus dans le West Island et aux environs.
Oui, oui.
En 48, c'est la réélection de...
Moi, je dirais l'Ouest de Lille. Hein? Tu peux dire l'Ouest de Lille, Dave?
Oui, tout à fait. Allons-y. Okay. Puis, en fait, en 1948, donc c'est Duplessis qui est réélu sur le thème de l'autonomie provinciale. Donc, on est loin de ça aujourd'hui. Là. C'est un sujet qui est pratiquement pas abordé, à part un peu par le Parti québécois.
Ouais.
C'est les élections du fameux slogan de l'Union nationale, les libéraux donnent aux étrangers, Duplessis donne à sa province. C'est à ce moment-là qu'on l'utilise.
Ah oui.
Et parmi les thèmes qui sont présents dans la campagne, un thème qui est toujours là aujourd'hui, c'est l'inflation. D'ailleurs, une analyse du vote démontre que les femmes ont voté majoritairement pour l'Union nationale de Duplessis parce qu'elles avaient un ressentiment contre le coût trop élevé de la vie qu'elles associaient aux mesures fédérales qui étaient donc libérales fédérales, et ils ont fait un peu la transposition avec les libéraux québécois qui ont un peu payé le prix. Donc, selon les analyses de l'époque, c'est le vote des femmes qui a été déterminant dans l'ampleur de la défaite libérale de 1948.
Ah, intéressant.
Le Parti libéral du Québec, en 1948, a perdu 29 députés, ce qui est énorme. Godbout lui-même est défait dans l'Illet par 40 voix. Godbout, c'était Adélard Godbout, le chef du Parti libéral de l'époque. Donc, il faudra voir si qu'est-ce qui se passe avec Dominique Anglade, qui elle est même menacée dans son propre comté, dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Et en terminant, c'est ça, la défaite électorale de 1948, c'est un creux dans l'histoire du Parti libéral, parce que le parti va remonter dans les années 50 jusqu'à prendre le pouvoir en 1960 avec Jean Lesage. Donc, on revient à une période plus sombre de l'histoire libérale sur le plan électoral.
Oui, une vraie traversée du désert. Hein?
Oui.
Deuxième sujet, on en a trop parlé, mais revenons avec un autre angle sur le décès d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni, mais aussi du Canada. Un décès qui est survenu il y a 12 jours déjà. Son corps a été déposé hier dans la crypte royale de l'abbaye de Westminster. Et ton collègue du Devoir, Boris Proulx, s'est penché sur les discours d'adieu à la reine Élisabeth II prononcés à la Chambre des communes lors d'une séance spéciale tenue jeudi et vendredi dernier. Et il y a beaucoup de choses qui se sont dites qui ne sont pas très, conformes à l'histoire.
Oui, ben c'est ça, le décès des monarques, ben, le changement de règne, c'est souvent un révélateur de l'état de la mémoire. Dans le cas présent, c'est ça, à la Chambre des communes, on a eu des discours, c'est pas très suivi, en fait, mon collègue Boris Proulx, lui, il les a écoutés attentivement.
D'ailleurs, c'est la tout cérémonie, à son honneur.
Tout à fait, et il faut mentionner que les élus du Bloc québécois n'étaient pas là, ils avaient choisi de ne pas participer à cette espèce de dommage collectif. On a eu plusieurs députés, beaucoup de conservateurs notamment, dont Andrew Scheer, qui a fait un discours, un hommage, donc on peut écouter un court extrait.
Les du Québec savent que c'est l'histoire de notre peuple ici en Amérique du Nord et quelques événements qui ont eu un grand impact sur la couronne. For example, Madam Speaker, was the Quebec Act, that first...
C'est la loi du Québec qui a donné les libertés religieuses aux catholiques, pavant la voie pour la tolérance religieuse partout dans l'Empire britannique. Ça a été innovant ici en Amérique du Nord, c'était pour réunir deux peuples, et cela a changé la façon dont les catholiques et les minorités religieuses étaient traitées partout sur Terre.
Oh, oh! Intéressant!
Andrew Scheer, il faut se rappeler qu'il y a une formation en histoire, c'est un fervent catholique, et lui, dans son extrait, donc dans son discours dans l'ensemble, il glorifie l'acte de Québec de 1774. Il dit que c'est pour la première fois donc qu'on a accordé la liberté religieuse aux catholiques, ouvrant la voie à la tolérance dans l'ensemble de l'Empire britannique. Évidemment, ça manque beaucoup de contexte parce qu'on sait que c'est l'acte de Québec de 1774, donc c'est on enlève le serment du test que les catholiques canadiens-français devaient prêter pour accéder à des charges. Il y a beaucoup d'autres éléments dans cet acte-là, mais c'est vraiment un acte qui est accordé aux Canadiens-Français dans le contexte de la Révolution américaine qui s'annonce. C'est vraiment une volonté de rallier les Canadiens pour éventuellement les faire combattre contre les révolutionnaires. C'est pas vraiment un geste de gratuit, comme on pourrait dire. Le contexte est très important. Il y a d'autres députés,
c'est ça,
par exemple.
Il y a des raisons stratégiques. C'est pas juste la belle tolérance, là.
Non, c'est ça. Puis de toute façon, les analystes de l'époque voient vraiment ça comme plutôt un relâchement de l'intolérance protestante envers l'autre qui était très forte. Donc, c'est tout simplement un relâchement de quelque chose. C'est pas vraiment un grand progrès, disons.
D'accord.
Le député conservateur de Colombie-Britannique, Mark Dalton, lui, a lancé dans le même sujet que les Canadiens français avaient décidé de rester sous la couronne britannique en 1775 lors de l'invasion du Québec par les Américains de Bénédicte Arnold et pour sauver leur langue, leur religion, tout ça. Évidemment, cette vision-là est plus étonnante encore que ce que disait M. Scheer. En réalité, les Canadiens français en 1775 ont largement appuyé les Américains en leur fournissant des vivres, en leur fournissant de l'hébergement. Ah, il y a même eu des Canadiens français qui ont pris les armes pour les Américains.
Ah, oui.
Il y en avait d'ailleurs assez pour former 2 régiments de l'armée continentale américaine. Le recrutement se poursuivait et l'eût été de l'arrivée de renforts britanniques au printemps 1776. Ce régiment-là aurait pris de l'ampleur. Et donc, ça a été complètement court-circuité par l'offensive britannique. Mais donc, de prétendre que les Canadiens français ont choisi de rester sous la domination britannique en 1775, c'est très fautif, disons, pour garder des mots polis.
Mais Dave, est-ce que c'est pas vrai quand même que certaines élites, et je pense au clergé, étaient plutôt favorables au maintien de la population francophone sous les Britanniques plutôt que sous les Américains?
Oui, justement, le clergé était très content de l'acte de Québec qui avait été voté un an plus tôt. Par contre, il y a quand même on l'oublie souvent, mais il y a certains prêtres récalcitrants qui ont accepté de prêter des sacrements aux envahisseurs américains. Il y a même un prêtre canadien français qui est devenu aumônier pour un des 2 régiments que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est quand même plus contrasté que ça. Et les seigneurs, évidemment, avaient été beaucoup favorisés par le régime. Et donc, ils étaient pas très nombreux, même très peu à appuyer les Américains. Mais la population générale, les historiens s'accordent pour dire qu'il y avait au moins une neutralité bienveillante envers les Américains. Et d'ailleurs, en 1776, quand les Américains sont refoulés au sud de la frontière, les autorités britanniques établissent une commission pour avoir un rapport comptabiliser tous les Canadiens français qui ont prêté assistance aux rebelles. Et ce rapport-là témoigne que dans chaque paroisse, il y avait des partisans, des Bostonnais, comme on disait à l'époque, et des insurgés. Donc, c'est vraiment, le député Dalton est vraiment dans l'erreur. Aussi, c'est ça, un autre député, la conservatrice ontarienne Shelby Cramp Newman, a parlé de la Révolution américaine. On est beaucoup là-dedans, là. Comme quoi la monarchie britannique nous aurait protégés des tourments révolutionnaires, a qualifié la Révolution américaine de cataclysme. Donc, c'est ça. Elle a évoqué le fait que la couronne britannique a protégé les Mohawks à l'époque, les Iroquois, comme on disait, des envahisseurs américains et de leur dépossession qui a eu lieu au sud de la frontière. Par contre, c'est pas tout à fait vrai parce que les Britanniques n'ont pas su protéger ce qu'on appelait la Confédération des 6 nations iroquoises, qui a été vraiment dévasté par les troupes américaines dans les faits. Et en terminant, c'est ça, il y a beaucoup donc des conservateurs qui ont pris la parole en évoquant des souvenirs historiques, mais on a aussi eu une libérale, le député libéral Cody Blois, qui a évoqué l'harmonie entre les Acadiens et les loyalistes de la Nouvelle-Écosse. Donc ça, c'est assez amusant. Disons qu'on est loin de la déportation, le grand dérangement de 1755.
Incroyable.
Comme quoi, c'est ça, on voit bien ce qu'on veut voir dans le passé royal canadien.
Oui, face à ces énormités-là, on se dit qu'il y a des cours d'histoire qui devraient être donnés à la Chambre des communes. Merci beaucoup, Dave Noël.
Merci, Antoine.
Cube Radio.